Bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 10 juin. Chérubin Dorcil et Nathalie Barge en votre compagnie. Au sommaire ce soir, Boko Haram exporte sa campagne de terreur vers un village du nord du Cameroun.
Centrafrique, préparation en vue d'un dialogue national sur fond de violence. Deux personnes ont été tuées ce matin à Bangui.
Selon Joachim Sadoum, chef du quartier Sara 2, non loin de PK5, les deux personnes tuées s'étaient réfugiées au camp de déplacés de l'église des Frères des Castors.
La Côte d'Ivoire pleure la disparition du cardinal Bernard Agré, ancien archevêque d'Abidjan.
Il était avant tout un pasteur. Un pasteur qui avait le souci de la santé de l'âme et du corps des croyants, des chrétiens, des catholiques en particulier.
J-1 au Brésil pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde.
L'Algérie de Vaïd Ailovic sera une équipe très très difficile à manœuvrer.
Les francophones sont-ils l'espoir de l'Afrique ? Nous écouterons l'entraîneur du Congo, Claude Leroy, l'un des invités à notre journal de la Coupe du Monde. Et nous aurons aussi la musique avec Roger Munto. Pour l'instant, le journal.
Nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord du Cameroun. Plus de 300 membres présumés du groupe radical nigérian ont investi le village de Gorsitourou, incendiant des églises et pillant la localité. Et les précisions de Lionel Gaïma.
Moussa Sambo, le chef du village ciblé, rapporte que les assaillants s'étaient positionnés dans les collines environnantes pendant 5 jours avant de passer à l'offensive vendredi soir. Les forces camerounaises sont arrivées sur les lieux 2 heures plus tard pour livrer bataille. L'attaque a été repoussée et les assaillants se sont enfuis en territoire nigérian, a affirmé de son côté le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma. Il a fait état de nombreux assaillants tués et d'un soldat camerounais et un villageois. Il a appelé les habitants à informer les autorités de toute activité suspecte dans leur région. Toutefois, le chef de village Moussa Sambo rapporte que les soldats camerounais n'ont pas pu accéder aux collines où se sont retranchés les assaillants.
Dans l'état de Borno, au Nigeria, plus de 20 femmes ont été enlevées samedi par des militants présumés de Boko Haram près de Chibok, où plus de 270 écolières ont été kidnappées en avril. Selon les habitants de Garkin, dans le nord-est du pays, les femmes ont été forcées par des hommes armés de rentrer dans un camion. 3 jeunes hommes ayant tenté de les défendre ont également été enlevés.
En Centrafrique, 2 personnes ont été tuées ce matin dans un quartier du 3e arrondissement de Bangui. La présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a lancé aujourd'hui les travaux préparatoires d'un dialogue national pour la réconciliation. Le point avec Idriss Fall.
Selon Joachim Sadoum, chef du quartier Sara 2, non loin de PK5, les 2 personnes tuées s'étaient réfugiées au camp de déplacés de l'église des Frères des Castors. Ils sont revenus ce matin dans leur quartier pour s'enquérir de la situation après le désarmement volontaire. Ils ont été pris à partie par un groupe d'individus armés. Et pendant la cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires du dialogue politique national à Bangui, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, a appelé à la cessation des violences.
Je lance donc un appel à tous les groupes armés pour cesser les violences et les hostilités. J'exhorte les participants à la présente table ronde de réfléchir sur l'urgence de la mise en œuvre d'un accord de cessation de violence et des hostilités, afin de créer les conditions nécessaires en vue de réaliser le dialogue recherché.
Les discussions regroupent plusieurs cadres centrafricains et vont durer 3 jours avec l'appui financier de l'Union européenne.
Les 3 mouvements rebelles du nord du Mali, le Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le Mouvement arabe de l'Azawad ont signé lundi la déclaration d'Alger. Ces 3 groupes armés réaffirment leur volonté d'un dialogue inclusif avec les autorités de Bamako pour consolider la paix. Mohamed Ag Aharid, le porte-parole du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad.
C'est pour montrer qu'on est en train de faire des efforts pour avancer, pour aller vers le dialogue comme la communauté internationale l'a toujours souhaité. Donc c'est pour montrer et prouver notre bonne volonté à aller de l'avant et, afin de trouver une solution durable à ce problème. Maintenant, on a discuté bien sûr avec les autorités algériennes. On a évoqué toutes les difficultés qu'il y avait. Et aussi, on a dit ce qu'on attend, notamment une nouvelle gouvernance dans les droits et dans les faits, en tenant compte de la diversité géographique, économique, culturelle, et surtout la spécificité de l'Azawad. Et il y a l'aspect sécuritaire aussi, qui est très important, et le développement. Et aussi, trouver les mécanismes par lesquels il faut garantir tout ça.
Mohamed Ag Aharid, porte-parole du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad.
Le président du Conseil des imams et des prédicateurs du Kenya a été abattu ce matin à Mombasa. Cheikh Mohamed Idriss, un imam modéré, avait été menacé par des jeunes musulmans radicaux. C'est le quatrième chef religieux à être tué dans cette ville kényane ces deux dernières années. Les trois autres étaient accusés d'avoir des liens avec les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
En Égypte, après l'agression sexuelle d'une étudiante par des hommes, place Tahrir au Caire, lors de l'investiture du président Sissi, des militants des droits humains dénoncent l'insuffisance des mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une femme a été brûlée à l'eau bouillante sur la place Tahrir par trois assaillants qui l'ont déshabillée, selon le bureau du procureur. Plusieurs organisations des droits humains ont appelé à manifester samedi pour dénoncer ce fléau.
Des milliers d'enfants sont menacés par une épidémie de rougeole en Somalie. L'UNICEF et l'OMS appellent à une campagne de vaccination d'urgence et l'ONU a averti auparavant du risque de crise alimentaire dans ce pays en guerre depuis deux décennies.
Le nombre de migrants arrivés par bateau en Italie depuis le début de l'année a passé la barre des 50 000. Le directeur général de l'OIM, William Lacy Swing, a appelé à prendre des mesures au plan international suite à l'arrivée ce week-end de plus de 5 470 migrants en Sicile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Irak, les extrémistes islamistes sunnites ont pris aujourd'hui Mossoul, la seconde ville du pays, où plus de 4 500 personnes ont été tuées cette année. Il s'agit d'une défaite importante pour le gouvernement du chiite Nouri al-Maliki face aux avancées de l'État islamique en Irak et au Levant. Michel Joseph.
Cette branche d'Al-Qaïda s'était déjà emparée de Fallujah dans l'ouest au début de l'année. La prise de Mossoul, deuxième ville du pays, représente un effondrement total des forces de sécurité, selon un commandant militaire irakien. Le premier ministre al-Maliki a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence. Les insurgés ont saisi le siège du gouvernement provincial, des bases sécuritaires et d'autres bâtiments. Ils ont aussi libéré des centaines de prisonniers, des combattants d'Al-Qaïda pour la plupart. Dans leur retraite, les troupes irakiennes ont mis le feu à des dépôts de munitions et à des réserves de carburant. Les djihadistes tentent d'établir un état islamique dans les régions qu'ils contrôlent, dans l'ouest de l'Irak et dans l'est de la Syrie voisine, où ils combattent également le président Bachar al-Assad.
Il faut dire aussi que les islamistes sont à Kirkuk, réaction au département d'État à Washington. L'État islamique en Irak et au Levant représente une menace pour la stabilité de l'Irak et de toute la région, déclare la porte-parole Jennifer Saki dans un communiqué. 5 soldats américains et un Afghan ont été tués lundi dans le sud de l'Afghanistan, vraisemblablement après avoir été bombardés accidentellement par les forces de l'OTAN, Issa Napan.
5 soldats américains et un Afghan ont été tués hier dans le sud-est du pays. Ils ont été bombardés accidentellement par les forces de l'OTAN pendant une opération contre les talibans avant le second tour de l'élection présidentielle prévue samedi. Selon le Pentagone, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Il serait l'un des plus meurtriers pour la force internationale. En avril dernier, 5 soldats britanniques avaient aussi été tués après l'accident d'un hélicoptère dans la province de Kandahar, bastion des islamistes dans le sud du pays.
Nouvelle attaque contre l'aéroport de Karachi au Pakistan au lendemain d'affrontements qui ont fait au moins 36 morts. Cette fois, deux motocyclistes ont ouvert le feu sur un centre de formation sans faire de victimes. Les talibans pakistanais ont revendiqué l'attaque d'hier.
En Ukraine, le président Petro Poroshenko a ordonné la création de couloirs sécurisés dans l'est du pays pour faciliter le départ de ceux qui tentent de fuir les combats. Le dirigeant ukrainien dit vouloir éviter de nouvelles victimes. Les troupes gouvernementales cherchent à reprendre le contrôle des bâtiments publics occupés par les séparatistes.
Deuxième journée de négociations directes entre les États-Unis et l'Iran. Les deux parties se rencontrent à Genève pour tenter de forger un accord durable sur le nucléaire iranien. L'Iran et le groupe des 5+1 doivent se réunir la semaine prochaine.
Israël a élu ce mardi son nouveau président, un député conservateur qui s'oppose à la création d'un État palestinien, Jacques Aristide.
Candidat du Likoud, âgé de 74 ans, Reuven Rivlin succède donc à Shimon Peres à la tête de l'État hébreu. Poste protocolaire, quoique influent, le nouveau président préconise la création d'une confédération avec les Palestiniens plutôt que l'indépendance. Il appartient au même parti politique que le premier ministre Benjamin Netanyahou, mais les deux hommes sont considérés comme étant des rivaux. M. Rivlin prendra ses fonctions en juillet, à la fin des 7 ans de mandat de M. Peres, qui est prix Nobel de la paix et qui a beaucoup plaidé en faveur de la paix avec les Palestiniens.
Corée du Sud, près de 2 mois après l'accident du ferry qui a fait plus de 300 morts. Un procès s'est ouvert à Gwangju contre le capitaine et son équipage qui avaient abandonné le bateau. Le capitaine Lee Jun-seok et trois des accusés risquent la peine de mort.
Ici aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants a déclaré que les Américains sont moins en sécurité à cause de la décision de l'administration Obama de libérer 5 prisonniers talibans en échange du sergent Bo Bergdahl. Le député républicain John Boehner avertit que l'accord aura des conséquences néfastes pour les États-Unis. La Maison-Blanche maintient que la vie du sergent était en danger et qu'il fallait agir vite pour obtenir sa libération. Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington, chez Robin Dorsil et Nathalie Barge, en votre compagnie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, le Conseil des ministres a adopté hier un projet de révision constitutionnelle, mais n'a rien laissé filtrer du contenu précis de ces textes. L'opposition estime que c'est pour aider M. Kabila à rester au pouvoir au-delà de 2016, ce qui lui est pour le moment interdit par la loi fondamentale. Qu'est-ce que doit être amendé dans la loi fondamentale congolaise? Idriss Fall a joint à Kinshasa Lambert Mende, porte-parole du gouvernement.
Réaménagement du cadre légal qui organise les élections. Nous voulons faciliter les opérations électorales et donc il y a des dispositions que nous avons prises, notamment de procéder à la rédaction de 4 textes de loi au lieu d'une seule, parce qu'avec une seule législation, nous avons pu aboutir à des élections totalement asymétriques.
Et quelles sont ces dispositions-là qui doivent être remaniées alors?
Celles qui concernent le processus électoral, notamment celui qui fait que les députés provinciaux soient élus au suffrage universel. Nous n'avons pas d'argent pour financer de telles élections qui coûtent plus de 100 millions de dollars. Donc nous avons estimé que les députés au niveau de nos provinces seraient élus maintenant au suffrage universel indirect. C'est l'exemple le plus important dans cet ensemble de réaménagements.
Est-ce qu'on a touché à la question du mandat présidentiel, par exemple?
Si on a touché, vous le verrez bien. Je ne sais pas pourquoi je dois répondre à une telle question. Vous m'avez posé la question, je vous ai dit quelles dispositions nous touchons et vous me parlez de mandat présidentiel. Si quelqu'un sait mieux que nous ce que nous proposons, qu'il le dise. C'est un procès d'intention qu'on veut nous faire. Ils viennent nous montrer que nous avons touché au mandat présidentiel parce qu'ils savent mieux que nous ce que nous voulons. Donc nous n'en parlerons même pas.
Est-ce qu'il y a eu consultation des partis d'opposition?
Pourquoi est-ce qu'on doit consulter les partis d'opposition qui sont au Parlement, alors que c'est au Parlement que nous adressons la demande de réviser? C'est au Parlement qu'il y a ce débat. Est-ce que quand le gouvernement aux États-Unis ou en France se réunit, ils invitent l'opposition? Et la Constitution donne au gouvernement qualité de prendre une initiative pour demander au Parlement de modifier la Constitution. Quand le président prend une initiative, il a le droit, comme président de la République, selon la Constitution, d'initier une révision et le président ne peut pas être en même temps président et opposant. Tout comme 50 députés, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, ont le pouvoir de demander une révision de la Constitution au Parlement. tout comme 100 000 citoyens congolais peuvent signer une pétition. C'est ça notre constitution.
Mais une loi fondamentale concerne l'ensemble des Congolais.
Mais le Parlement représente qui d'après vous? Une partie des Congolais ou l'ensemble des Congolais? Puisque c'est au Parlement que nous allons poser ce problème et avoir ce débat.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement à Kinshasa.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Cap maintenant sur le Burkina Faso. Avec ses 730 000 tonnes, le Burkina prend encore la tête des pays africains producteurs de coton. Quel impact a ce produit sur la vie des Burkinabés et quelle est sa place dans le développement économique du pays? Des réponses dans ce dossier de Zoumana Wonogo.
La filière coton au Burkina bénéficie très souvent des subventions de l'État. Pour la campagne qui vient de s'écouler, le gouvernement burkinabé a délié le cordon de la bourse à hauteur de 10 milliards de francs CFA pour subventionner les intrants. Pourquoi toutes ces largesses de l'État envers ce secteur? Écoutons les explications de Jean-Paul Sawadogo. Il est le directeur général de la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina.
Quand vous prenez l'agriculture américaine, elle est subventionnée à hauteur de 75%. Lorsque nous aidons les producteurs à pouvoir acquérir des intrants à un coût accessible, ils disent « Ah non, il faut les laisser à eux-mêmes ». Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour distribuer en un an, au niveau de la zone Sofitex, 120 milliards de francs CFA comme revenu aux producteurs, pour avoir mis 10 milliards. C'est apprendre ou à laisser. C'est mieux de faire comme ça que de les laisser, et puis à la fin de la campagne, les gens sont affamés. Tu vas faire quoi? Tu as oublié de trouver les solutions pour leur donner quelque chose à manger. 22 céréales, la prise sociale, quoi, etc. Ce qu'on dépense, c'est énorme. Mais ça, toute agriculture est subventionnée.
Prenant la question de subvention au rebond, Jonas Bayoulou, le secrétaire général de la Sofitex donne ici les détails sur les impacts macro et microéconomiques du coton. On écoute.
Prenez le Burkina Faso aujourd'hui. Sans le coton, qu'est-ce que l'économie devient? Vous allez vous rendre compte qu'on va avoir des problèmes énormes. Du point de vue de la puissance publique, ils ne regardent pas, je mets 10 milliards pour partager 120. Ils ne regardent pas l'impact d'une dépense immédiate, mais ils regardent l'impact global sur toute l'économie, sur tous les agents économiques. On voit bien tout l'intérêt et toute l'importance du coton pour notre économie. Maintenant, au plan microéconomique, je vais vous prendre l'exemple sur mon département d'origine, Tiriba. Cette année, il a été produit là-bas 14 352 tonnes. Mais l'argent qui a été payé en net entre les mains des producteurs du département, c'est 3,45 milliards. Mais que feraient-ils ces producteurs-là qui pourraient leur procurer ce type de revenus? Quand on a vérifié, le taux de crédit était autour de 32%. Quand on a fait un petit calcul sur les prix de 235, c'est comme s'ils avaient utilisé uniquement 13 francs le kilo du coton pour payer le prix des intrants. La viabilité microéconomique, là, c'est une question d'organisation et d'efficacité de chaque producteur. Mais si vous prenez ceux qui ont 200 kilos à l'hectare, 300 kilos à l'hectare, ils vous diront que le coton n'est pas fiable.
Nous avons rencontré Marie Wedrogo. Elle est productrice de coton. Elle dit ici l'importance du coton dans l'économie familiale.
La culture du coton, c'est très bien parce que ça nous aide beaucoup dans les familles. Ça nous aide à payer beaucoup de choses, à payer la scolarité des enfants et les moyens de transport. Nous sommes contents de cultiver le coton parce que ça nous aide beaucoup, beaucoup.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
La Côte d'Ivoire pleure la disparition du cardinal Bernard Agré. Ancien archevêque d'Abidjan, Monseigneur Agré est décédé hier à Paris à l'âge de 88 ans. Son biographe, le journaliste Léon Lebré-Francis, se souvient de lui comme un bâtisseur.
Il était avant tout un pasteur. Un pasteur qui avait le souci de la santé de l'âme et du corps des croyants, des chrétiens, des catholiques en particulier. C'est-à-dire qu'il assumait pleinement son ministère sacerdotal, mais il assumait aussi sa mission de développement et de promotion de l'homme et de tout homme. C'était une manière pour lui de faire passer l'Évangile dans une situation de sécurité sociale, de sécurité humaine
et de développement.
Monseigneur Agré était un homme particulièrement populaire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fonde le socle de cette popularité?
D'abord parce qu'il avait peut-être un charisme personnel. Il avait sa façon de dire les choses et de faire les choses. Tout cela était basé sur une solide formation intellectuelle. Il est devenu populaire aussi parce qu'il a pris une part importante dans les situations, disons, de conflits, de crises en Côte d'Ivoire. Il est devenu populaire aussi parce que ses homélies étaient des homélies qui étaient recherchées, parce qu'à la lumière de l'Évangile, il disait ce qu'il devait dire, et il le disait à temps et à contre-temps, aux hommes de bonne volonté, d'une manière générale, à toutes les classes, y compris aux responsables de notre pays. Donc, à tout cela, on peut ajouter son côté bâtisseur, ça montre bien quel était le niveau de ce pasteur, dans quelle considération il était tenu à la fois par les croyants et par les laïcs, par les autorités civiles.
Léon Lebré-Francis, auteur de l'ouvrage « Le cardinal Agré, ses grands bonheurs et ses menus secrets », était joint à Abidjan par Jean-Roger Bion.
Et nous passons tout de suite au journal de la Coupe du Monde au Brésil, tous les jours sur nos antennes avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous, bienvenue à ce journal de la Coupe du Monde. On est à jour J-2 de l'ouverture de l'événement. À 4 jours de l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire au Mondial 2014, les éléphants s'apprêtent à devoir se passer de Yaya Touré, le joueur de Manchester City, atout majeur de la sélection ivoirienne, se remet difficilement d'un étirement aux ischio jambes contracté en fin de saison dans un match du championnat d'Angleterre. Yaya Touré demeure donc incertain pour la rencontre contre le Japon samedi prochain à Recife dans le groupe C. Une source officielle citée par l'AFP l'a confirmé ce mardi. Et puis hier, lors de leur dernier match amical, les Black Stars du Ghana ont battu la Corée 4-0. Et pour savoir davantage sur les chances des équipes africaines cette année, j'ai joint au Brésil Claude Leroy, sélectionneur du Congo. Il est présentement consultant au Brésil pour Radio France.
Paradoxalement, je pense que cette année, les équipes francophones restent très solides. Je crois en Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je sais que l'Algérie de Vahid Ailozic sera une équipe très, très difficile à manœuvrer. Maintenant, j'attends de voir du côté du Nigeria, même si ce sont les champions d'Afrique, mais beaucoup vont découvrir cette compétition. Et puis le Ghana, j'espère que le Ghana, parce que j'adore cette équipe que j'ai dirigée, n'a pas laissé passer sa chance en 2010, puisque les joueurs cadres, à part André Ayew et Jordan Ayew, mais les joueurs cadres comme Afamo Adjane, Souleymane Tari et Michael Essien sont pas en fin de carrière, mais pas loin, et je pense qu'ils étaient au maximum de leur forme et de leur qualité il y a 4 ans, il y a 8 ans, et que le temps est peut-être un peu passé pour eux. Ils sont très cohérents, les joueurs camerounais. Ils voulaient que, pour une fois, arrêter de demander toujours au gouvernement, mais que ce soit avec l'argent de la Coupe du Monde ou de la Fédération, que les primes soient distribuées. Bon, les choses sont régularisées depuis, et je pense que ça a solidarisé l'équipe des problèmes camerounais avant le départ de Yaoundé. Et on peut penser que cette équipe du Cameroun va être très, très difficile à jouer.
C'était donc Claude Leroy, sélectionneur du Congo. Et notons que la FIFA a dévoilé la liste des 33 arbitres de champ du Mondial 2014. Parmi eux, 5 Africains, Noumandié Désiré Doué de Côte d'Ivoire, Bakary Papa Gassama de la Gambie, Jamel Haïmoudi d'Algérie, Néante Alioum du Cameroun et Daniel Fraser Bennett d'Afrique du Sud. À Belo Horizonte, on se bouscule pour voir s'entraîner l'équipe d'Argentine et son idole Lionel Messi. Des milliers de personnes se pressaient ce mardi aux abords du Stade América pour tenter d'obtenir l'un des 4000 billets gratuits qui donneront le droit d'assister à la première séance publique des Albicélestes ce mercredi. Les plus motivés des supporters campaient même aux abords du stade depuis lundi soir. Et voici maintenant le coup de sifflet de Jules Valentin Ngwe. Aujourd'hui, notre consultant en football revient sur la génération dorée, l'équipe de Côte d'Ivoire.
We celebrate the best African football. No wahala, just the best.
Bonjour. Pour sa troisième participation successive, la génération dorée des académiciens ivoiriens n'a plus droit à l'erreur. Elle trouve par contre une occasion de briller au niveau mondial en accrochant un succès conséquent lors de ce mondial brésilien. Ses énormes atouts restent les mêmes pour réaliser ce jackpot. Une défense hermétique et imprenable dans les airs permet de gérer les temps faibles de l'équipe pendant les périodes dangereuses de récupération qui coûtent souvent cher aux équipes africaines à ce niveau. Trois joueurs hors normes, Yaya Touré, Gervinho et Drogba, peuvent à tout moment faire basculer la rencontre quand le collectif est en panne. En effet, les Ivoiriens sont les seuls Africains constamment capables d'inquiéter les adversaires sur des coups de pied arrêtés ainsi que les coups de pied de corner, des qualités indispensables pour débloquer les situations. Que dire donc d'une équipe qui ne se pose plus de problèmes d'homogénéité, d'équilibre et d'automatisme ? Malheureusement, cette sélection qui apparaît toujours comme la plus grande chance africaine de médaille a aussi les mêmes défauts. Une certaine incapacité à changer de rythme, ce qui rend l'équipe fiable si elle est menée au score ou contrariée. En d'autres termes, un problème de mental. Par ailleurs, l'équipe est victime de son rang et à ce titre, elle doit faire le jeu. Elle est disséquée et prévisible à tout moment. Mais le tirage au sort qui a mis les éléphants dans une poule homogène et abordable où sa qualification devrait servir de déclic pour une campagne à la hauteur des espérances des Africains laisse beaucoup d'espoir. Aux éléphants de savoir enfin provoquer leur chance. À demain.
À demain, Jules. C'est tout pour cette édition consacrée à la Coupe du Monde. Au micro, Bagassi Koura, merci de nous avoir suivis.
Merci, Bagassi.
La page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Nathalie. Demi Lovato fera la première partie de la prochaine tournée d'Enrique, Enrique Iglesias. J'espère que j'ai bien dit ça, hein, Gabi. Enrique.
Bien sûr, bien sûr.
Enrique Iglesias qui passera par la France. Hein. Ils seront sur la scène du Bercy Arena le vendredi 21 novembre 2014. On l'écoute ce soir. On écoute donc Enrique Iglesias dans Héros.
Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight.
C'est le fils de Julio Iglesias, n'est-ce pas?
Oui, exactement.
Et il est très très mignon sur la vidéo avec son petit air de Brad Pitt. Et c'est une vidéo que je n'ose pas trop citer parce que... Alors il y a le méchant, il y a Mickey Rourke hein, qui arrive dans cette... Il joue toujours des rôles de méchant.
Et t'es pas la seule à dire ça, Nathalie. Les filles sont folles de ce monsieur.
Ah bon, c'est normal. Ah bon, oui, oui.
Alors, Nathalie donc, n'a pas dit qu'elle est folle.
Non, c'est pas ce que j'ai dit, d'autant plus que... Alors, il signe son grand retour avec une tournée intitulée que je n'ose pas citer cette tournée.
Mais moi, je
vais citer. Vous allez la citer.
La tournée, c'est au fait Sex and Love Tour. Ah. C'est ça le nom, c'est juste un nom, Nathalie. Il n'y a pas trop de problème là-dessus.
Mais
c'est dans la lignée de son dernier album, hein, du même nom d'ailleurs. L'opus n'a pas rencontré le succès escompté, mais Enrique Iglesias, comme le dit Chérubin. Et Live Nation mise beaucoup hein, sur cette tournée. Espérons, Nathalie, qu'elle boostera la vente de son album.
I can kiss away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away.
Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nathalie.
Enrique Iglesias, hero, faut le dire à l'américaine, n'est-ce pas?
Hero.
Roger Muntou, que vous retrouverez dans le RM Show à 20h, temps universel.
Ici s'achève Le Monde aujourd'hui. Lionel Gaïman a dirigé la mise en onde. Bill Barber était à la console technique. Laissez vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Prochain rendez-vous dans une demi-heure avec Chérumain Lorsil et Nathalie Barge.
Oh yeah, have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight.